French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là, et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat le podcast. French Expat le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode tous les lundis matins et nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi, c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast et je vous parle depuis Grenoble en France et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui et sa famille ont troqué la grisaille lilloise pour une vie sous les palmiers de Doha au Qatar. Et même s'ils ne se plaignent pas d'avoir gagné quelques degrés, la météo n'était pas du tout un facteur décisif. La carrière de son mari qui stagne, l'impression d'un plafond de verre qui l'empêche de gravir les échelons, et puis du coup le désir de tenter sa chance ailleurs qui se fait de plus en plus pressant. Finalement, tout se bouscule et en quelques semaines seulement, cette famille de quatre s'envole pour le Qatar. Mais je ne vous en dis pas plus et j'ai le plaisir de vous présenter Myriam. Bonjour Myriam, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur cet épisode de podcast.
Merci, merci de me recevoir.
Alors, tu es installée en famille à Doha, au Qatar, depuis 2015.
C'est ça.
Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette expatriation et comment ça s'est passé pour vous. Donc, avant de parler de votre vie actuelle, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière et puis que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, comment s'est présentée cette opportunité de partir à Doha. Est-ce que c'était quelque chose dont vous rêviez ou est-ce que c'est vraiment juste une occasion qui s'est présentée et que vous avez saisie ?
D'accord. Alors, avant de venir à Doha, j'étais maman au foyer de deux enfants et mon mari travaillait comme team leader pour une grosse boîte environnementale en France, dans le Nord.
D'accord.
Donc, nous nous plaisions dans le Nord de la France, même s'il faisait très froid. On a toujours eu cette envie de partir, mais on ne savait pas où ni comment. Donc, c'était un petit rêve qu'on laissait dans un coin de notre tête. Et puis, l'élément déclencheur a été le manque de considération professionnelle. On s'est vite rendu compte que malgré l'expérience et les compétences professionnelles, il y avait un plafond de verre au-dessus de mon mari et ça devenait de plus en plus frustrant.
D'accord, donc impossibilité d'évoluer, c'est ça ?
C'est ça, donc très très frustrant, surtout quand on sait ce qu'on vaut dans l'entreprise. Donc, pendant deux ans, on en a parlé, plus ou moins. On était en plein travaux à la maison, donc c'est vrai qu'on avait autre chose en tête. Et puis, en janvier 2014, un ras-le-bol de mon mari. Et je me souviens encore de ce jour où il est rentré et m'a dit « Écoute, aide-moi à préparer mon CV en anglais, il faut qu'on parte. » Donc, de janvier 2014 à août 2014, je lui ai créé un compte LinkedIn, Indeed, et j'ai envoyé son CV un peu partout. Je dois dire qu'on s'était aussi concentré sur Dubaï parce que c'était un émirat qu'on aimait beaucoup, qu'on avait déjà visité plusieurs fois et on avait déjà lu et entendu des témoignages de personnes qui avaient pu évoluer professionnellement et très vite. Donc, je concentrais mes recherches sur Dubaï, mais ça ne menait pas à grand-chose, rien de concret en tout cas. Et en août 2014, nous avons reçu un appel provenant du Qatar. L'ancien chef de mon mari, qui était basé ici, avait reçu son CV par un chasseur de tête de Dubaï. Donc, grosse coïncidence. Et en août 2014, mon mari a eu sa première interview par téléphone pour un job ici à Doha. Donc, s'en est suivi plusieurs interviews, une par mois, jusque fin novembre. Et fin novembre, ils nous ont dit qu'ils nous attendaient un mois après, au Qatar.
Oh, wow. Donc, un process de recrutement qui a été finalement assez long.
Assez long parce qu'ils étaient sur plusieurs projets en même temps. Donc, plusieurs candidats pour d'autres postes. Mais je dois dire qu'une interview par mois, c'était assez parce qu'il y avait tout ce processus pour mon mari d'apprentissage de tous les termes techniques et scientifiques à apprendre en anglais. Donc, c'était bien assez pour lui pour se préparer à un éventuel poste à l'étranger.
D'accord. Et ça n'avait pas un côté un petit peu stressant de pas savoir si ça allait aboutir et enfin je trouve que plus ça traîne dans la longueur des fois plus c'est difficile de savoir si effectivement ça va se concrétiser.
C'était très long. Personnellement, moi j'y pensais jour et nuit. Mon mari est plutôt terre à terre et vivait au jour le jour. Moi je dois dire que j'avais mon téléphone sans cesse connecté sur les mails, toujours dans l'attente en fait d'un appel ou d'un message. Donc oui, c'était stressant.
D'accord. Ouais, j'imagine. Donc du coup, finalement, novembre 2014, c'est ça, il a la réponse et il a la confirmation qu'il est pris pour le poste.
C'est ça, donc on nous envoie une offre par mail et on nous demande de la signer si ça nous convient. Et on a signé le lendemain et tout envoyé le lendemain. C'était fin novembre 2014.
D'accord. Et du coup, il vous laissait un mois pour déménager, c'est ça ?
C'est ça, donc en un mois, on a tout vendu à part la maison. La maison, on l'a mis en location. Mais nous avons vendu tous nos meubles, pratiquement tous les jeux des enfants. On s'était dit qu'on partirait léger et nous n'avons pris que 4 valises.
Waouh, belle performance. Surtout avec des
C'est
enfants,
ça.
Je trouve. Et alors, d'un point de vue administratif, du coup, comment ça se passe pour immigrer ou s'expatrier au Qatar ? Est-ce qu'il y a beaucoup de démarches ? Est-ce que c'est coûteux ?
Alors, il y a 3 types de visa. Le visa expatrié, c'est-à-dire quand votre boîte en France vous envoie pour une mission à l'étranger. Donc, ça, c'est la boîte qui s'en occupe et on a une date de commencement et une date de fin, comme un CDD. Et quand on est expatrié, on sait qu'après, on rentre en France ou on est envoyé dans un autre pays. Pour notre cas, c'était un contrat local. Même si mon mari restait dans la même boîte, il passait dans la branche Middle East. Donc, il cassait son contrat en France, il démissionnait pour aller être embauché au Moyen-Orient. Donc, c'était un contrat local. Et même pour ce type de visa, un visa famille, c'est la boîte qui s'en occupe et qui paye l'intégralité. Ensuite, il y a le visa entrepreneur. Au Moyen-Orient, si on veut investir, on se trouve un sponsor qatari. Ce sponsor qatari aura plus de 50% de la boîte, c'est-à-dire qu'il sera votre sponsor et aura la majorité des parts. Et c'est également lui qui s'occupera de votre visa. Donc, en gros, on n'a rien à faire de ce côté, à part envoyer des justificatifs, aller s'inscrire aux Français de l'étranger, etc. Mais ça ne nous coûte rien.
Et du coup, j'imagine que c'est un processus qui a dû être assez rapide, puisque si vous avez eu la confirmation et avez accepté l'offre en novembre et avez déménagé un mois plus tard, c'est quelque chose qui se fait
alors,
vite. Alors,
pour mon mari, le visa a été très rapide. Il l'a reçu dans les semaines qui ont suivi. Pour mes enfants et moi, notre sponsor, c'est mon mari. Donc, nous sommes arrivés sur un visa touriste de 6 mois. Au cours de ces 6 mois, la boîte a fait le nécessaire pour nous enregistrer sur un visa famille.
Et du coup, ça ne nécessite pas de faire un aller-retour après en France pour faire valider un visa, par exemple, comme ça peut être le cas aux États-Unis quand on change de visa. On est souvent obligé de repasser par la case France, souvent ambassade à Paris, et puis repartir après.
Ça peut être le cas pour certaines boîtes ici, notamment, je pense, l'école française. Mais pour nous, ça n'a pas été le cas. Mais par contre, durant ces 6 mois, je ne devais pas quitter le territoire pour ne pas casser ce processus.
Donc du coup, visa en poche. Alors visa, donc on a dit pour ton mari et toi au départ, visa touriste, puis visa expatrié.
Enfin, résidence permanente. Résidence pas permanente, mais du moment où mon mari avait un emploi, on peut rester au Qatar, en fait.
Et donc là, vous partez alors fin décembre.
On part le 4 janvier. On arrive le 4 janvier au soir à Doha, dans une ville que nous ne connaissons absolument pas. Seul, on atterrit à l'aéroport. Personne pour nous accueillir. Un monsieur qui était en retard. Et là, on se dit où on est. Il fait très chaud. C'était un peu... comme dans un rêve, en fait. La fatigue, se sentir à des milliers de kilomètres de tout ce qu'on a toujours connu. J'ai eu un moment où il a fallu que je m'assieds et que je respire un peu et me dire « Bon, on y est, maintenant, voilà, c'est fait. » Limite, dans ma tête, je me disais « De toute façon, c'est trop tard pour revenir en arrière. Ressaisis-toi, ça va aller. »
Ouais, je pense que c'est un sentiment normal, en fait, un mélange d'excitation,
exactement,
de stress, et puis cet effet de concrétisation, ça y est, on y est, et on va commencer cette nouvelle vie, mais aussi dans
c'est
l'inconnu,
ça.
En fait. Parce que du coup, vous n'aviez pas visité Doha du
absolument
tout pendant,
pas.
Pendant tout ce processus de recrutement.
On connaissait Dubaï, donc c'est à peu près pareil, mais Doha est beaucoup plus... family friendly, moins bling-bling, beaucoup plus calme.
Et alors, du coup, ça me permet de faire une bonne transition. C'est vrai que le Qatar, moi, j'en connais pas grand-chose. Et du coup, j'ai l'impression aussi que c'est pas une destination qui est très fréquente pour des Français. En tout cas, personnellement, moi, j'en connais pas beaucoup qui sont expatriés. Je connais des gens qui sont expatriés à Dubaï. J'en connais très peu qui sont expatriés au Qatar. Et j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir un peu des préjugés, des idées un peu reçues sur ce pays-là. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Comment toi, tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu un choc culturel?
Alors moi, je n'avais pas de préjugés du tout. Je me suis renseignée très très vite lorsque j'ai entendu Doha Qatar. Je me suis renseignée, j'ai regardé des émissions sur National Geographic, des forums, et je me suis vite rendu compte que ça allait être un petit Dubaï. En revanche, c'est vrai que les gens qui venaient acheter nos meubles s'intéressaient un peu à notre déménagement. Et puis quand je leur disais Doha au Qatar, on me disait mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu auras le droit de conduire, tu pourras t'habiller comme tu veux. Et c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit, mais enfin, oui, je pense que j'aurais le droit de conduire ou de m'habiller comme je veux. Je m'étais un peu préparée, hein, donc je connaissais un peu le lifestyle ici, donc je n'avais pas du tout peur, pas du tout. Et c'est vrai que en 2014-2015, on ne parlait pas du Qatar autant qu'on en parle aujourd'hui en France. Et souvent, les gens confondent Qatar et Arabie Saoudite.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu une confusion de ce côté-là, où peut-être que c'est vrai que ce qu'on peut voir parfois sur notamment la place de la femme en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, voilà, je pense que c'est un peu ce qui vient à l'idée par total manque de connaissances et d'informations sur le Qatar. Du coup, pour toi, tout s'est bien passé. Tu as effectivement eu le droit de travailler. Enfin, travailler, je ne crois pas que tu travailles, mais de conduire, de t'habiller comme tu veux, de porter
même
non le voile.
J'étais même très étonnée de la place de la femme au Qatar. Énormément, son chef d'entreprise, entrepreneur, médecin, instit. Les femmes qataries font littéralement ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une femme qatarie veut un emploi, elle va dans n'importe quelle boîte et peut travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose, je n'ai jamais vu ça ailleurs.
Une place très importante, du coup, pour la femme. Donc.
Exactement, oui. Et puis, effectivement, elles conduisent. Elles peuvent même conduire des belles voitures de sport. Et oui, elles ont une très belle vie.
Vous arrivez à Doha, est-ce que vous êtes un peu pris en charge par l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que vous êtes logé tout de suite à votre arrivée ou est-ce que vous êtes débrouillez-vous pour trouver un logement?
Alors, on a été logé 15 jours dans un hôtel extrêmement loin de tous les centres d'intérêt de Doha, donc c'était assez difficile. C'était un quartier exclusivement indien et philippin. Donc, le choc culturel a été assez difficile. C'était loin des beaux hôtels, c'était loin des plages, des musées, etc. Donc, ça a été un peu difficile. Le quartier n'était pas très beau en plus. Mon mari a commencé le travail directement le lendemain, juste après notre arrivée. Donc, je me suis retrouvée seule avec mon fils de 5 ans et ma fille de 2 ans. On m'avait dit avant mon départ, tu verras, les enfants sont petits, ça va être très facile et ils vont très vite s'adapter. Et ça a été tout le contraire. Et ça, c'est assez important, c'est un point à soulever parce que même à 2 ans, ma fille a compris cette séparation qu'on allait avoir avec la famille et l'a très très mal vécue. Elle faisait des crises dès qu'on arrivait à l'hôtel, mon fils pleurait avant de dormir tous les soirs. Et moi, en tant que maman, mère au foyer, femme d'expatriée, il m'a fallu absorber tous leurs états d'âme, leurs peurs, leurs inquiétudes et le stress aussi de mon mari face à ce nouveau job et ce nouveau challenge. Donc, pendant ces 15 jours, j'ai dû beaucoup prendre sur moi, d'autant plus que j'avais 15 jours seulement pour trouver un logement, une école pour mon fils qui continuait sa grande section. Et le point le plus dur, ça a été de constater que nous ne connaissions rien de ce pays et que nous aurions dû négocier le contrat. Nous D'accord. avons eu un contrat qui ne nous permet pas de, qui ne nous permettait pas de vivre décemment.
En termes de salaire, tu veux dire ?
Exactement. Ma priorité était de vivre à côté de l'école parce que, comme dans toutes les grandes villes, le trafic est monstrueux à Doha. Et je refusais l'idée de devoir réveiller mes enfants à 5 heures du matin pour faire une heure de route dans les bouchons. Et nous nous sommes retrouvés dans un minuscule appartement, à 10 minutes à pied de l'école, certes, mais tellement petit cet appartement que mon cœur de maman vraiment en souffrait parce que je me disais... voilà, j'ai insisté auprès de mon mari qu'il fallait tenter, il fallait se lancer. Et puis, je leur ai fait quitter cette grande maison qu'on avait. On se retrouve dans un tout petit appartement et je me suis sentie très coupable. Et ça, pendant un an.
Alors, c'est très intéressant ce que tu racontes parce que moi, c'est exactement ce que j'ai vécu en rentrant des États-Unis. Et je voulais revenir sur un point qui est effectivement très important que tu as souligné, c'est l'adaptation des enfants parce que j'ai eu exactement le même discours que toi quand on est rentré. Mais tu verras, les enfants s'adaptent vite. Moi, les miens étaient nés aux États-Unis, donc ils ne connaissaient que ça. Et tout le monde m'a dit, mais tu verras, ils s'adaptent vite à cet âge-là, etc. Et ça a été pareil que toi, tout l'inverse. Alors bon, Noam avait 5 mois quand on est rentré. Donc pour lui, c'est effectivement passé assez inaperçu. Donc il était nourri, changé, etc. Chéri, je veux dire, tout se passait bien. Mais pour Olivia, qui avait le même âge que ta fille, donc c'est-à-dire 2 ans, ça a été très très compliqué avec des grosses crises d'angoisse. Et du coup, voilà, je voulais qu'on s'arrête sur cet élément-là 5 minutes parce que non, tous les enfants ne réagissent pas de la même façon. Tout le monde ne vit pas le changement de la même façon. Je pense que Loïs et moi étions aussi très stressés par le retour en France et tout ce que ça impliquait d'un point de vue administratif, logement, etc. Donc je pense qu'il y a forcément une partie de notre stress qui est passée chez elle, mais c'est pas toujours évident. Et du coup, puisqu'on parle de ça, ce que je voulais te demander, c'est comment est-ce que vous avez géré ça et comment est-ce que ça s'est amélioré pour ta fille, en fait ?
Alors, on était toujours dans ce petit appartement, mais moi, j'ai vite pris conscience que voilà, c'était fait. Je me suis un peu mis un coup de pied aux fesses. Écoute, Myriam, ton mari a démissionné, vous êtes à 7000 km. Maintenant, va falloir la vivre, cette aventure. Vous y êtes, alors on essaye de faire au mieux pour l'instant. Au pire, vous rentrerez en France dans un an, mais laisse-le au moins faire son expérience. Donc, mon fils a vite repris l'école, donc ça nous a donné un certain rythme. Et puis, pour ma fille Lily, j'ai fait en sorte de lui faire un peu l'école à la maison avant qu'elle ne reprenne l'école en septembre. Donc, de, on va dire, février à septembre, je lui ai fait faire énormément d'activités, je l'ai promenée, j'ai beaucoup discuté avec elle. Disons qu'après un mois d'expatriation, ça allait déjà un peu mieux. Elle allait chercher son frère à l'école avec moi, elle revenait et ils ont commencé à jouer avec quelques voisins. Donc, elle a vite repris sa vie d'enfant. Et puis moi, j'ai dû aussi me déstresser. Et je pense que oui, un enfant, c'est comme une éponge. Et quand les parents vont bien, il va plutôt bien aussi. Mais je gardais dans un coin de ma tête que peut-être j'avais mal entrepris cette expatriation.
Tu le disais un petit peu tout à l'heure. Peut-être qu'avec le recul, mieux négocier les conditions salariales dans lesquelles vous êtes partie,
c'est ça ? Je savais que la vie était chère au Qatar, mais pas à ce point-là. Surtout, il y a 5 ans en arrière, c'était encore plus cher qu'aujourd'hui, surtout les loyers. Et je me rappelle encore de la fois où j'ai dû faire mes courses pour la première fois et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur donner à manger ? Quand on est face à des petits Suisses à 10 euros, on se dit, ok, enfin, il y a des lunchbox à préparer. Mon fils commençait à être très, très ami avec des petits Qataris. Et là, on se dit, il y a le cœur de maman qui parle et qui se dit, mais je veux pas qu'il se sente mis de côté. Je veux pas qu'il ait envie de la lunchbox du voisin. Voilà, je veux qu'il se sente bien et intégré. Donc, les courses, ça représentait un budget énorme. On avait pour objectif aussi de mettre de l'argent de côté parce qu'on avait conscience qu'en contrat local, eh bien, on préparait notre propre retraite. On avait fait le choix de ne pas cotiser. Donc, il y avait tout ça. Il y avait aussi le fait qu'on voulait voyager. On est près de l'Asie, faire des activités, profiter de tout ce que ce pays avait à nous offrir. Mais c'est vrai que le salaire qu'avait mon mari à l'époque ne nous permettait pas trop de faire de folie.
D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu renégocier facilement, assez rapidement, quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un gap un peu important entre ce que vous pensiez que le coût de la vie était et ce qu'il était réellement ?
Alors, après 1 an et demi, mon mari, après avoir fait ses preuves et avoir accompli de nombreuses choses au profit de la société, s'est permis de renégocier. Et les négociations n'ont pas abouti. Donc là, j'ai un peu tapé du poing sur la table. Et 2 jours après, il a donné sa démission. Démission qui a été acceptée par la boîte. Il avait 3 mois de préavis. Donc, durant 3 mois, nous nous sommes préparés à un retour en France. Et puis, 3 semaines avant notre supposé départ du Qatar, mon mari a reçu une promotion. Il a gagné 2 places dans la société. Autant vous dire qu'on était déjà à l'hôtel, plus de meubles, plus d'affaires, prêts à partir en France. Et on reçoit cette offre. Et mon mari, un peu gêné, me dit « mais voilà ce qu'ils m'ont proposé ». Alors, je voyais bien dans ses yeux qu'il était hyper content. Donc, tout de suite, je lui ai dit que oui, qu'on allait rester. Donc, ça a été comme un deuxième déménagement.
Vous auriez été prêt à vraiment à rentrer en France à ce moment-là, après 1 an et demi ?
Oui, parce que les conditions de vie, on mettait beaucoup de choses de côté, les activités des enfants, nos propres activités, les vacances, bien manger, enfin, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait plus faire.
Ouais, je comprends, et c'est vrai que c'est important. Ouais. Et c'est aussi un autre chose dans ton histoire dans laquelle je me retrouve aussi, puisque je pense que nous aussi, on avait sous-estimé en partant aux États-Unis le coût de la vie. Pourtant, on avait fait pas mal de recherches, mais il y a des éléments, en fait, je trouve, qui sont très difficiles à vraiment estimer, notamment le budget alimentaire.
Exactement.
Avant d'être sur place, en fait. On peut se donner une idée, mais je trouve que c'est vraiment très difficile, surtout si on veut garder certaines habitudes de bien consommer, de consommer des fruits, des légumes. Pour notre part, on consommait bio, donc et c'est vrai qu'il y a eu aussi un peu cet aspect là où on s'est rendu compte que effectivement on aurait peut-être dû négocier un peu à la hausse. Donc je comprends qu'après je comprends tout à fait votre point de vue de se dire si on sacrifie trop sur notre vie et sur notre bonheur, ça vaut pas la peine de rester pour se sacrifier à ce point là
c'est quoi. Ça, et puis du coup à partir de ce moment là on peut vraiment dire qu'on a pleinement profité de notre expatriation et de tout ce que ça avait à nous offrir. On a déménagé, on habite dans un beau compound et ça a permis à mes enfants de devenir trilingues aujourd'hui. On a des super voisins, ils ont gagné en indépendance parce qu'ils sont dehors du matin au soir, ils ont de nombreuses activités. C'est vraiment la vraie vie, entre guillemets, d'expatriés qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Qatar.
Super retournement de situation du coup pour vous et en votre faveur, donc c'est chouette. Une question qui me vient, c'est au niveau visa, donc... Tu disais donc ton mari a eu un visa de résidence, vous l'avez eu après 6 mois, et est-ce que vous êtes toujours sur ce même visa ou est-ce que les choses ont dû changer pour vous? Est-ce qu'il y a des dates d'expiration
ou... Tant que mon mari a son contrat de travail, nous restons sur ce même type de visa, c'est-à-dire que nous avons un visa de résidence, en fait une carte de résidence qui est valable tout le long du contrat de mon mari. Donc c'est un peu, je pense, comme le système américain, c'est-à-dire que il a un CDI, mais qui peut se rompre du jour au lendemain dès lors que la compagnie n'a plus besoin de lui.
D'accord. Et si cela arrivait, vous avez obligation de rentrer dans un délai court. Par exemple, aux États-Unis, c'est un mois une fois qu'on perd son emploi.
C'est ça. Alors, il y a des compagnies qui sont un peu plus dures, qui donnent parfois qu'une seule semaine. Mais en général, c'est un mois. Certaines compagnies sont plus sympas et permettent d'être encore sponsorisées pour nous laisser le temps de trouver un autre emploi. Mais alors, on n'a plus de salaire et on vit sur ces économies.
Oui, il n'y a pas de système de chômage à Doha.
Non, du tout.
D'accord. Et au niveau, une autre question qui me vient, c'est au niveau santé, comment ça se passe? Est-ce qu'on est bien couvert? Est-ce qu'il faut prendre des assurances privées qui sont chères?
Alors, dès lors qu'on a une carte de résidence, qu'on soit expatrié ou en contrat local, ou même entrepreneur, ou même ouvrier indien, par exemple, qu'on voit souvent dans les reportages, on a droit à une carte de santé qui coûte 25 euros par an par personne. C'est l'équivalent d'une carte vitale. Et elle nous donne droit à tous les soins dans les health centers de nos quartiers, ainsi que à l'hôpital public. Dans les health centers, donc il y en a un par quartier, on retrouve toutes les spécialités médicales et c'est gratuit.
D'accord.
On a souvent, un euro symbolique à payer par médicament, mais c'est un système qui fonctionne très très bien.
D'accord, donc une très bonne couverture santé.
C'est ça. Depuis que mon mari a changé de poste, on nous a rajouté également une mutuelle privée qui nous donne accès aux hôpitaux et cliniques privées où là, on a accès à des professeurs occidentaux et des médecins peut-être un peu plus qualifiés.
Du coup, vous êtes parti de France parce que tu disais tout à l'heure, il y avait un peu un plafond de verre et une impossibilité de monter les échelons au sein d'une entreprise française. Mm-hmm. Et de ce que tu nous racontes, du coup, j'ai l'impression que vous avez trouvé un peu votre bonheur. En tout cas, ton mari a trouvé son bonheur professionnellement à Doha.
Oui, tout à fait. En fait, il s'est vite rendu compte que la place qu'il convoitait en France et qu'il a eu au Qatar était vraiment celle qu'il voulait et qu'il en était capable. La preuve en est, il a très vite gravi les échelons avec la même boîte et a gagné 2 postes supplémentaires.
Et est-ce que vous l'expliquez d'une façon ou d'une autre, cette différence qu'il y a entre la France et Doha ? Niveau professionnel ?
Ça ne s'explique pas. Je pense que c'est le fonctionnement français. Et c'est assez dommage parce que ici, on rencontre des personnes qui ont tellement de qualités professionnelles, qui sont fonceurs, bosseurs et qui n'ont malheureusement pas eu la chance peut-être de faire de grandes études, mais qui font des choses vraiment magnifiques ici ou même ailleurs. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense qu'en France, on passe à côté de grands talents à cause de ce mode de fonctionnement.
On ne laisse pas la chance aux gens et... Il faut toujours prouver d'avoir fait telle école, d'avoir tel diplôme et c'est beaucoup plus cloisonné effectivement. C'est aussi quelque chose que j'ai ressenti en étant aux États-Unis.
Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'ici, échouer n'est pas considéré comme une faute en fait. En France, échouer, ça nous, on est celui qui a échoué. Ici, on est celui qui aura appris de ses erreurs et qui fera mieux la prochaine fois.
Oui, on considère pas ça comme un enseignement en France et on se dit que c'est plutôt la preuve d'une incompétence, alors que dans d'autres cultures, effectivement, c'est vraiment encouragé parce que ça fait preuve de maturité. En tout cas, on s'est donné les moyens d'essayer et même si on n'a pas réussi, on a forcément appris quelque chose dans cet échec et c'est vrai que c'est beaucoup plus valorisé dans d'autres pays que ça peut l'être en France.
C'est ça. Je dois dire aussi que en suivant des expatriés aux US, je remarque que le Qatar calque tout sur le modèle américain, en fait. Que ce soit le management, les ressources humaines, l'école, la façon d'entreprendre, et tout est calqué sur le modèle américain.
Sauf, a priori, l'aspect santé, et c'est plutôt une bonne chose qu'il n'ait pas copié ce modèle-là.
C'est ça.
Donc là, ça fait maintenant bientôt 5 ans en fait que vous êtes à Doha. Est-ce que vous êtes content de votre vie telle qu'elle est ?
Après 5 ans, on se rend compte que on ne peut pas tout avoir dans un seul et même endroit. C'est-à-dire que énormément de choses de notre vie française nous manquent. Bien manger, parce que même si aujourd'hui on a les moyens de bien manger, on n'a pas beaucoup de produits français. On a la chance d'avoir Monoprix ici, mais effectivement, on ne retrouve pas tous les produits qu'on avait l'habitude d'avoir. Le goût des bons fruits et légumes, le goût du bon chocolat. Enfin, en France, on se rend compte qu'on peut bien manger, pas forcément pour très très cher. Ensuite, la nature nous manque aussi. Alors, au Qatar, on essaye de multiplier le nombre de parcs, etc. Mais c'est pas naturel. La nature nous manque, la montagne nous manque, et puis la vie simple au final nous manque. Alors ça peut-être faire rêver ces grands buildings, ces sorties en bateau, et puis cette vie assez luxueuse. Mais au bout d'un moment, la vie simple, ça manque aussi. Doha est une nouvelle ville, donc ce ne sont que des grandes voies rapides. On est dépendant de la voiture et le fait de sortir de chez soi en France, fermer la porte et pouvoir marcher, c'est quelque chose qui nous manque. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça nous manque énormément.
Ah non, je comprends. C'est un style de vie qui est différent.
C'est un sentiment de liberté qu'on a un peu perdu. Et puis, je dois dire aussi que lorsqu'on a des enfants, vivre dans un pays aussi riche que le Qatar, ça peut être problématique parce que du coup, les enfants ne connaissent que ce mode de vie. Et à 10 ans, mon fils trouve normal d'avoir le dernier iPhone. Alors que pour moi, déjà, à 10 ans, on n'a même pas un vieux Nokia.
Oui, un 3310.
Donc ça, c'est un peu difficile à expliquer. Et puis, il y a ce fossé qui nous sépare. C'est-à-dire que quand mon fils est invité sur une île privée à un anniversaire, moi, je viens lui chercher et je lui explique qu'en France, tu as de la chance de faire ton anniversaire au McDo, c'est vrai qu'ils ont du mal à le comprendre, ça. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on offre à la fille de l'émir qui fête son anniversaire, par exemple ? On sent ce fossé et limite, on se sent un peu gêné et pas à notre place, parfois.
Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens parce que tu ressens une pression de l'extérieur ou c'est juste toi qui es un peu mal à l'aise parce que c'est aussi un mode de vie qui est nouveau pour toi avec vraiment des grosses différences culturelles ou différences culturelles de ce point de vue-là ?
Je pense que c'est moi qui suis mal à l'aise parce que au fur et à mesure de mes rencontres avec des femmes qataries, on se rend vite compte qu'en fait elles connaissent notre mode de vie en France et elles savent que déjà un cadeau d'anniversaire à 15 euros c'est déjà un bon cadeau et elles n'en attendent pas plus de nous en fait. Au contraire, elles s'intéressent à notre mode de vie et c'est pas tant le cadeau qu'elles attendent mais notre compagnie. Donc je pense que c'est moi de mon côté qui mets une certaine pression justement pour pas que mes enfants se sentent différents.
Oui, bien sûr, je comprends. Pour eux, la vie au Qatar, tu les sens épanouis maintenant, après presque 5 ans ?
Mes enfants, complètement. Parfois, ma fille me demande, mais maman, je viens du Qatar, de France ou d'Algérie ? Parce que nous sommes d'origine algérienne. Et il faut lui expliquer la différence entre pays d'expatriation, pays d'origine, pays de nationalité, et tout ça c'est un petit peu un mélange, mais c'est vrai que mon fils commence même à être assez chauvin, le Qatar a gagné la Coupe d'Afrique d'Asie, pardon, la Coupe d'Asie récemment. Et ils étaient aussi fous que lorsque la France a gagné la Coupe du Monde.
D'accord. C'est marrant et c'est vraiment approprié du coup. Enfin, c'est... Après, c'est vrai qu'en arrivant à 5 ans, du coup, il en a bien 10 ou bientôt 10, c'est ça ?
Il a 10 ans et même ma fille, là, qui va bientôt avoir 7 ans, dès qu'elle entend l'hymne national du Qatar, ils sont là à se lever, à mettre la main sur le cœur, à réciter. C'est, ouais, c'est limite du bourrage de crâne, mais en fait, ils se sentent vraiment bien ici.
Ouais. Et puis, ils ont fait, pour ton fils, la moitié de sa vie, il l'a passé en France, et puis l'autre moitié, il vient de la passer au Qatar, et pour ta fille, c'est
exactement
deux tiers de sa vie qu'elle a passé au Qatar, donc c'est bien
aussi. Ma fille n'a passé que 2 ans en France.
D'accord. Et ils réclament parfois la France ?
On rentre pour Noël et les grandes vacances, d'accord, donc je pense que pour eux, c'est suffisant.
Oui.
Ils sont très contents de rentrer en France, ils profitent, mais dès qu'on rentre au Qatar et qu'on pose un pied à l'aéroport, ils ont toujours cette réflexion de dire « Ah, ça fait du bien ».
Ouais, on est de retour.
Alors,
à la maison.
Alors, je ne sais pas si c'est… Il y a un énorme sentiment de sécurité que tous les expatriés n'expliquent pas lorsqu'on pose le pied à l'aéroport de Doha. Ce sentiment de bien-être, de sécurité… On est assez bichonné, hein. C'est un monde de service, on s'habitue assez vite. Il y a un bien-être qu'on n'explique pas et qui est très appréciable.
D'accord. Donc, on parlait de la France. Aujourd'hui, après 5 ans d'expatriation, quel regard, toi, tu portes sur la France ?
Depuis le début, la France me manque. Alors, parfois plus que d'autres, mais en général, oui, je me dis, on a énormément de chance d'être français. Parce qu'on vit entouré de personnes qui viennent du monde entier. J'ai par exemple ma voisine qui vient du Yémen. Et là, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas pu rentrer chez elle à cause de la guerre. Et là, on se dit, nous, on part quand même 2 fois par an en France et on s'y sent bien. Et on est aimé et choyé. Et j'ai encore une autre amie qui est égyptienne et qui me parle de la condition du peuple égyptien et qui du coup prépare sa résidence permanente au Canada. Et encore une fois, j'explique à mes enfants, mais vous vous rendez compte qu'on vit dans un pays en paix, on aura un toit sur notre tête, on aura à manger. Je me rends compte que la France fait beaucoup, même si, voilà, même si les gilets jaunes, même si les salaires sont plutôt bas, même s'il y a un manque de reconnaissance, on a quand même une chance énorme d'être français.
Ouais, je suis d'accord et je trouve que... Partir, vivre ailleurs, ça permet aussi de mieux apprécier ce qu'on a en France et pas toujours voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays avec une mauvaise appréciation et puis un peu des fantasmes de ce que peut être la vie à l'étranger. Alors il y a des côtés qui sont très sympas, mais il y a plusieurs titres, on se rend compte qu'on est bien logé en France, notamment pour tout ce qui est social, je pense.
Et puis l'école, on se rend pas compte d'avoir l'école gratuite. Alors, bien sûr que c'est toujours mieux de faire une grande école payante que l'université, parce que c'est plus reconnu, mais on peut réussir. On peut réussir même si on va à l'université publique. Ici, à Doha, il n'existe aucune école publique. Donc, dès la maternelle, si on n'a pas de school allowance, c'est homeschooling ou alors 10 000 euros minimum par an par enfant.
Donc le homeschooling, juste pour préciser, c'est l'éducation à la maison, donc soit faite par les parents, soit faite par un instructeur si on a les moyens de s'en payer un. Et alors par contre, tu parlais d'une allowance, donc comme une bourse en fait, c'est ça pour les écoles ?
Alors qu'on soit en contrat local ou en contrat expatrié, ici, en fait, les boîtes nous donnent soit un package, c'est-à-dire une énorme somme qui comprend le salaire et, on va dire, une somme qui comprend tous les frais de vie. Donc, nous, par exemple, nous avons un salaire et des allowances. Donc, on a une allowance voiture qui nous permet soit de la louer, soit de l'acheter tous les mois. On a une allowance pour l'école et on a une allowance logement et puis la mutuelle. Et on a également un billet par an par personne pour aller en France.
Et donc tout ça payé par l'entreprise ?
C'est ça.
Ok, donc peut-être des choses, si on devait d'ailleurs donner un conseil, peut-être des choses à négocier lors de... lors d'un recrutement ou d'une future expatriation à Doha, d'essayer de négocier un petit peu ces avantages-là payés par l'entreprise.
Exactement. À Doha, tout est négociable. Vraiment tout. Au Qatar, tout est négociable.
D'accord, c'est bon à savoir. Il y a un autre point que je voulais un petit peu aborder avec toi, puisque on se connaît, on échange par ailleurs. Je sais que tu es de confession musulmane, et du coup, je voulais savoir ce que ça a changé dans ta vie ou dans votre vie familiale d'être dans un pays où la religion de l'État entre guillemets est la même que la tienne, contrairement à la France.
Alors, je dirais que la chose la plus appréciable a été de pouvoir acheter ma viande en grande surface et de plus me soucier de regarder les étiquettes pour voir s'il y avait du porc ou de la viande dans tel ou tel plat. Donc, ça a été très appréciable et ça nous a changé la vie. C'est tellement plus rapide. Mmh. Ensuite, moi, je n'ai jamais connu le racisme en France en tant que femme. Oui. Donc je n'ai pas senti une grosse différence quant au regard qu'on posait sur moi. Je me couvre les cheveux et je le faisais déjà en France. Ça n'a pas été évident au début parce que les gens m'ont connue sans et puis avec. Mais je dois dire que en France, on avait ce sentiment de devoir appartenir à notre communauté et de devoir s'affirmer et aussi parfois se défendre et se justifier face aux actes extrémistes ou autres. Tandis que quand nous sommes arrivés à Doha, c'est comme si on était à la maison, c'est-à-dire que si demain je veux porter une grande abaya parce que je n'ai pas forcément envie de m'habiller et mettre un voile vite fait sur ma tête, personne ne va me regarder. Parce que faut le dire, à Doha, je vais dire, on s'habille un peu comme on veut. Après, il ne faut pas venir en mini jupe et mini haut, mais une femme en petite robe ou une femme voilée avec une abaya, ça pose aucun problème. Donc, c'est vrai qu'ici, on a eu ce sentiment de « on est chez nous, c'est notre religion qui prédomine, on a rien à prouver, voilà, en tant qu'arabe, musulman, etc. On nous apprécie pour ce qu'on est nous, pour ce qu'on peut apporter à la société, mais voilà, la religion n'entre pas en fin de compte dans toutes les relations sociales qu'on a ici.
D'accord. Et au même titre qu'un expatrié qui ne serait pas de confession musulmane se sentirait tout aussi intégré et apprécié à sa juste valeur au-delà de ses croyances ?
Complètement. Les Qataris sont très ouverts d'esprit et je dirais même que parfois ils vont privilégier un occidental justement pour ce côté différent qu'ils veulent apporter à leur société et ce côté très ouvert.
D'accord. Ouais, c'est un peu la différence que je ressens aussi parfois. Alors, je ne suis pas de confession musulmane, mais pour avoir vécu du coup une expatriation où... on sent que les religions et les pratiques de chacun sont mieux respectées ou mieux intégrées, en tout cas aux États-Unis, que ça peut l'être en France. On a l'impression que la France parfois manque un petit peu de savoir apprécier en fait la richesse de la différence en fait.
C'est ça. Et il y a une fête qu'on célèbre tous les ans dans les écoles. C'est la fête de la diversité. Et donc là, tous les enfants viennent représenter leurs origines. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait plus souvent faire en France.
Oui, j'ai d'ailleurs vu que ça se faisait dans d'autres pays. Et je te rejoins sur ce point-là. Ouais. C'est une chose, je pense, que nous apprend l'expatriation. C'est de se rendre compte que voilà, il y a d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, qu'il ne faut pas en avoir peur, qu'il faut savoir... voilà, aller à la rencontre de l'autre, mieux comprendre et qu'on peut tous très bien vivre ensemble sans problème. Alors du coup, ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, c'est quand tu regardes donc, les 5 ans qui viennent de se passer, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ? Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais? Alors, on en a évoqué un petit peu au cours de cette interview, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu conseillerais à des personnes qui souhaitent s'expatrier, soit parce qu'elles ont un projet à Doha, ou même juste au global, un projet ou une envie d'expatriation?
Alors, je dirais que le fait d'être partie assez rapidement n'a pas forcément été un point négatif, parce qu'on était pris dans notre élan et on n'a pas eu le temps de s'apitoyer sur les au revoir, et si on se sent pas bien là-bas, et si la famille nous manque trop. Voilà, on est parti tête baissée et je pense pas que ce soit un point négatif. En revanche, mieux se préparer quant au coût de la vie, au salaire et aux allowances, ça c'est quelque chose que je ferais évidemment différemment.
Et du coup, peut-être vraiment essayer de rentrer en contact avec des expatriés qui sont sur place, essayer de comparer un petit peu des salaires, essayer d'obtenir plus d'informations peut-être de gens qui sont...
Je ne l'aurais peut-être pas fait, parce que c'est une question qui revient souvent sur le forum des Français à Doha, le coût de la vie. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui font le choix de ne consommer que français et qui vont vous dire il faut absolument un budget de 2000 euros pour se nourrir, alors que d'autres vont plus cuisiner, faire leur propre gâteau, leur propre yaourt et consommer bio, mais beaucoup moins cher. Donc ça peut porter à confusion. Je dirais que venir sur place et se faire un caddie type, ça donne plus une idée que d'aller demander conseil, parce qu'on a tellement des façons de vivre différentes que ça peut porter à confusion.
Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, qu'est-ce que cette expatriation t'a appris sur toi, sur ta famille, sur...
Alors, j'ai appris que je pouvais me débrouiller toute seule, mais vraiment toute seule. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés, ça bloquait un peu au niveau du visa de mon mari, parce que l'intitulé de son diplôme ne correspondait pas à l'intitulé de son job ici. Donc, il a fallu que j'aille à l'Institut français toute seule. J'étais là avec mon téléphone sans internet, mais avec Map qui fonctionnait. Alors, je ne sais pas si c'est le ciel qui m'a aidée, mais j'avais ma fille dans la poussette, mon petit garçon de 5 ans qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Il n'y avait pas de Uber à l'époque. Et puis, je suis partie marcher. Marcher dans les rues en tentant de trouver l'Institut français. J'ai demandé à des gens qui passaient en voiture. Je me suis débrouillée, j'ai envoyé des mails. J'ai trouvé le logement moi-même, j'ai trouvé l'école moi-même. J'ai appris que je pouvais me dépasser. Et ce que j'ai pas dit, c'est que lorsque ma fille a commencé l'école, donc en septembre, donc quelques mois après notre expatriation, j'ai trouvé du travail, et à l'école en plus. Parce que les enfants finissant à 2 heures, c'était ma seule possibilité de travailler. Donc, j'ai travaillé à l'école pendant 2 ans. Donc, c'est vrai que j'ai appris que je pouvais totalement me débrouiller seule à plusieurs milliers de kilomètres de chez moi.
D'accord. C'était juste un CDD. Enfin, je ne sais pas si ça existe comme ça là-bas, mais c'était un contrat de courte durée, du coup.
C'était des contrats d'un an renouvelables, en fait. Puis, ma classe a fermé, donc je me suis arrêtée, mais ça a été une superbe expérience.
Oui, j'imagine. Et du coup, comment est-ce que vous envisagez votre futur? Est-ce que vous voyez rester à Doha? Est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir encore dans un autre pays, de revenir en France?
Alors, on se rend compte que de plus en plus de personnes dans le monde s'expatrient, et on se rend compte aussi que la concurrence est rude. Donc, ça ne va pas être évident de s'expatrier ailleurs, mais c'est notre souhait. Je pense qu'on viendra faire une pause en France pour profiter un peu de la famille, notamment de ma belle-mère qui n'est plus très jeune. On met la famille en priorité et en première place. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être là pour elle. Mais c'est vrai que notre avenir, on le voit ailleurs. Alors, pourquoi pas tenter plusieurs destinations. Je pense qu'on a appris avec l'expatriation à vivre un peu au jour le jour, et je pense que je ferai aussi selon le caractère des enfants, parce que ça ne doit pas être évident, passer le collège et lycée, de devoir changer tout le temps comme ça de destination. Mais je pense que on ira en France pour mieux se préparer au futur, peut-être pour reprendre des études, reprendre une formation, et pourquoi pas partir en tant qu'entrepreneur par la suite et découvrir d'autres destinations. Mais pour l'instant, nous sommes encore au Qatar. Oui.
Vous y voyez rester encore quelque temps.
Oui, tant que la boîte aura besoin de mon mari. Après, je pense pas que si son contrat se termine, on cherchera un autre job ici, parce que clairement, il est dans la meilleure boîte environnementale. Mais je pense que ça sera le temps pour nous de faire une petite pause en France pour se préparer ailleurs.
Une autre aventure. D'accord, super. Alors, on arrive un peu à la fin de cette interview. Une dernière question que j'aimerais te poser, on aime la poser généralement à nos invités, c'est s'il y avait un endroit à Doha que un visiteur, un touriste ou un futur expatrié devait visiter ou aller voir, qu'est-ce que tu recommanderais ?
Je recommanderais le souk Waqif. C'est un souk reconstitué qui dégage une chaleur et toute la culture qatari, en fait. Très calme la journée, il prend vie le soir jusque pas d'heure. On peut y trouver aussi bien des souvenirs que des restaurants locaux, des petits monsieur qui vous vendent des petits porte-clés, mais aussi des objets très luxueux. C'est un endroit qui fait face à la mer et dont on peut avoir une très belle vue sur toute la skyline de Doha. Et c'est très intéressant de voir ce côté très traditionnel et puis de l'autre, ce côté très moderne avec tous les buildings.
D'accord, super. Eh bien, c'est une recommandation que je mettrai aussi dans la description du podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous ?
Je dirais qu'il faut y croire, que rien n'est impossible, qu'il y a quelques années, jamais je ne me serais imaginée maman au foyer avec deux enfants trilingues qui s'adaptent à toutes les situations à des milliers de kilomètres de chez nous.
Bon, une super conclusion pour cet épisode. Myriam, je te remercie infiniment d'avoir répondu présente à notre appel pour cette interview, de nous avoir parlé de Doha et de nous avoir fait découvrir un petit peu plus ce qu'est la vie d'expatrié au Qatar. Je te souhaite bonne continuation et puis au plaisir peut-être de reparler un jour de ta prochaine aventure d'expatrié.
Merci à toi, au plaisir.
Si vous souhaitez suivre les aventures de Myriam et sa famille à Doha ou de continuer la conversation avec elle, je vous invite à la suivre sur son compte Instagram au MyExpatLife et je vous mets le lien de son compte dans la description du podcast et sur Instagram. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, avec un futur expat qui se pose plein de questions, ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook, @FrenchExpatLePodcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web FrenchExpatPodcast.com. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Excellente semaine et à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!